Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde et dernière émission du mois de mars, consacrée, comme deux fois par mois, à la promotion et à la défense des droits humains. Et pour l'animer ce soir, il y aura quatre voix différentes. Donc, il y a par la mienne, il y aura celle de Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y aura celle de Dominique.
Bonsoir.
Et on va aussi entendre, elle n'est pas dans le studio, Edith, mais que vous connaissez parce qu'elle anime souvent des émissions avec nous, mais elle nous a envoyé des petits enregistrements, deux petits enregistrements qu'on va vous diffuser pendant l'heure. Donc, cette heure donc, consacrée à la défense et à la promotion des droits humains, comme je vous le disais, avec plein de sujets. On va revenir sur les droits des femmes, puisqu'au mois de mars, c'est un mois où on privilégie les actions pour la défense des droits des femmes, bien évidemment. Donc on va parler de femmes iraniennes et d'actions d'Amnesty. Edith donc va vous parler d'actions, de protestations de nonnes au Tibet, un sujet qui n'a pas fait la une des médias, bien évidemment. Dominique va vous parler de tout à fait autre chose, par contre, de droits humains en Arabie Saoudite à travers la construction d'une centrale hydroélectrique. Mais elle le dira mieux que moi. On va vous parler aussi de portraits de résistants russes, parce qu'avec l'actualité du moment, il faut en parler effectivement de la société civile russe qui lutte, c'est important, etc., etc. Donc ne quittez pas l'écoute avant 19h, et même après, pour écouter le laboratoire, l'émission qui fait suite à l'émission d'Amnesty. Donc je laisse la parole tout de suite à Claire-Lise pour vous parler de femmes iraniennes.
Alors je vais vous parler d'abord des femmes iraniennes pour revenir un petit peu ensuite à notre escapade dans Évreux en faveur des femmes afghanes. Alors depuis près de 6 mois, les autorités iraniennes ont renforcé la répression des femmes qui ne portent pas le voile ou de manière non appropriée dans les lieux publics en mettant en place une surveillance généralisée des femmes et des filles dans l'espace public et en procédant à des contrôles de police massifs, ciblant notamment les femmes qui conduisent. Nous avons recueilli plusieurs dizaines de témoignages d'iraniennes qui dépeignent avec force la répression qu'elles subissent. En septembre dernier, le Parlement iranien a approuvé un projet de loi qui durcit les sanctions contre les femmes qui ne portent pas le voile obligatoire dans les lieux publics. Ce texte, intitulé « Soutien à la culture de chasteté et du voile », est intervenu 4 jours seulement après le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, une kurde iranienne de 22 ans décédée le 16 septembre 2022 après son arrestation par la police des mœurs pour avoir enfreint le code vestimentaire. Ce décès, vous vous en souvenez, avait alors déclenché un vaste mouvement de contestation dans tout le pays. Le projet de loi prévoit des sanctions financières pour la promotion de la nudité ou la moquerie du hijab dans les médias et les réseaux sociaux, ainsi que des amendes et des interdictions de quitter le pays pour des chefs d'entreprise dont les employés ne portent pas le voile. Au maximum, toute personne qui commet le délit de ne pas porter de voile ou de porter des vêtements inappropriés en coopération avec des gouvernements, des médias, des groupes ou des organisations étrangères ou hostiles à la République islamique sera condamnée à une peine d'emprisonnement de 4e degré, soit entre 5 et 10 ans. Pour devenir loi, le projet doit être approuvé par le Conseil des gardiens de la Constitution. Et en février 2024, le président Ebrahim Raisi a approuvé les coûts financiers importants nécessaires pour mettre en œuvre la loi proposée, ouvrant la voie à son approbation par le Conseil. S'efforçant de briser la résistance au port obligatoire du voile dans le sillage du soulèvement « Femmes, vie, liberté », les autorités iraniennes terrorisent les femmes et les filles en les soumettant à une surveillance et à un maintien de l'ordre permanent. Elles viennent perturber leur vie quotidienne en leur infligeant une immense détresse psychologique, a déclaré Diana Etalaoui, notre directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. D'après des annonces officielles, depuis avril 2023, la police des mœurs, donc police Amniaté Agnglangi, a ordonné...
Tu disais la... Tu disais
oui, a ordonné la saisie arbitraire de centaines de milliers de véhicules, dont les conductrices ou les passagères, parfois âgées d'à peine 9 ans, ne portaient pas de foulard ou le portaient de manière inappropriée. Pour les punir d'oser défier les lois sur le port obligatoire du voile, des dizaines de milliers de femmes se sont fait confisquer leur voiture de manière arbitraire. Alors, qu'est-ce que la police des mœurs ? Donc la police des mœurs iranienne, Gashté Ersad, est une sous-branche des forces de police du pays mise en place en 2005. Elle relève du mandat du ministère de l'Intérieur et cette unité patrouille dans les rues iraniennes et agit au nom de la défense des bonnes mœurs. C'est cette même unité qui a arrêté Mahsa Amini pour port du voile non conforme à la loi. Plusieurs vidéos analysées en 2019 ont dévoilé le niveau de brutalité de cette police, des mœurs contre les femmes. Ils les arrêtent au hasard dans la rue, les menacent, leur ordonnent de remonter leur foulard pour cacher des mèches de cheveux ou leur donnent des mouchoirs en papier pour essuyer leur maquillage. Dans ces vidéos, on les voit les agresser physiquement, les gifler et les pousser sans ménagement dans des fourgons de police. Alors, la saisie de voiture se base notamment aussi sur des images capturées par des caméras de surveillance ou sur des rapports d'agents en civil qui patrouillent dans les rues et qui utilisent une application bien particulière, son nom, Nazer, dont le nom se traduit par « surveillance » en farsi. Déployée il y a plus d'un an, elle vise un objectif simple, identifier toutes les femmes dans leur voiture qui ne portent pas correctement le hijab. Et alors, comment ensuite ils s'y prennent ? Eh bien, ils envoient un SMS à ces iraniennes réfractaires en leur signalant qu'il est nécessaire de respecter les normes de la société et de veiller à ne pas répéter cet acte de retrait du voile. Les femmes visées et leurs proches reçoivent des menaces par SMS ou appels téléphoniques, leur enjoignant de se présenter à la police des mœurs et de remettre leur véhicule pour les punir de ne pas avoir respecté l'obligation de porter le voile. Dans de nombreux cas, les responsables de la police des mœurs ordonnent que la voiture soit restituée au bout de 15 à 30 jours, une fois que les frais arbitraires couvrant le stationnement et le transfert à l'aide de grues sont réglés et que les femmes et les filles ou leurs parents masculins se sont engagés par écrit à respecter l'obligation de porter le voile. La police des mœurs peut aussi déférer les femmes et les filles devant les autorités chargées des poursuites en notant les rapports successifs selon lesquels elles ne portaient pas de foulard à bord des véhicules et en conditionnant la restitution de leur véhicule à la décision du procureur. Entre le 15 avril et le 14 juin 2023, la police a envoyé près d'un million de SMS contenant des messages d'avertissement à des femmes photographiées sans voile dans leur voiture. 133 174 SMS ont ordonné l'immobilisation temporaire du véhicule. 2000 voitures ont été confisquées et 4000 récidivistes ont été déférés devant la justice à travers le pays. Des centaines de commerces ont été fermés parce qu'ils n'ont pas appliqué les lois sur le port obligatoire du voile et des femmes se sont vues refuser l'accès au système éducatif, au système bancaire et aux transports publics. 1 million de SMS contenant des messages d'avertissement adressés à des femmes photographiées sans voile dans leur véhicule. 108 211 signalements relatifs à l'obligation du port du voile ont été effectués concernant des infractions observées dans des commerces. 300 délinquantes ont été identifiées et déférées devant la justice. Donc les femmes se voient aussi régulièrement refuser l'accès aux transports publics, aux aéroports et aux services bancaires si elles ne portent pas de voile. Les agents de l'État, en particulier aux aéroports, refusent l'accès aux femmes et aux filles portant des chapeaux et examinent la longueur et la coupe de leurs manches, de leurs pantalons et de leurs uniformes. Bon, je pourrais vous détailler encore pendant longtemps, simplement de toutes ces... Toutes ces interactions, ça s'accompagne généralement d'insultes, souvent sexistes, de violences et de menaces de poursuite. Il y a aussi des cours de moralité. Donc actuellement, une quinzaine de femmes et une adolescente de 16 ans sont poursuivies en justice uniquement parce qu'elle ne portait pas le voile, elle portait un hijab inapproprié ou un chapeau. Et il est difficile de quantifier l'ampleur de ces poursuites car les autorités ne publient pas de chiffres officiels. Toutefois, en janvier 2024, le chef de la police de la province de Qom, Mohamed Reza Mirhedari, a fait référence dans une déclaration à 1986 affaires pénales en lien avec le port obligatoire du voile depuis mars 2023. Alors, en fait, au niveau d'Amnesty International, on demande, en fait, excusez-moi parce que j'ai quelques feuilles, on salue le courage des Iraniennes et des Iraniens qui continuent de s'opposer à l'oppression et de se battre pacifiquement pour leurs droits fondamentaux. Nous sommes à leur côté et nous demandons à la communauté internationale et notamment à la France de réagir dès maintenant. Ensemble, continuons de scander avec le peuple iranien « Femme, vie, liberté ». Nos demandes, donc les autorités iraniennes doivent abolir l'obligation du port du voile, annuler toutes les déclarations de culpabilité et toutes les peines prononcées contre les femmes ou des filles qui ont défié cette obligation, abandonner toutes les charges retenues contre celles qui encourent des poursuites et libérer sans condition toutes celles qui ont été incarcérées parce qu'elles n'ont pas respecté l'obligation du port du voile, abandonner les projets visant à sanctionner des femmes et des filles parce qu'elles ont exercé leur droit à l'égalité, au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, de religion et de croyance. Les États doivent réagir par le biais de déclarations publiques et d'interventions diplomatiques énergiques, réagir en actionnant les recours juridiques permettant de mettre en cause la responsabilité des dirigeants iraniens qui ont ordonné, planifié et commis des violations généralisées et systématiques des droits des femmes et des filles avec l'application de l'obligation du port du voile, aider les femmes et les filles à fuir lorsqu'elles le souhaitent, la persécution liée au genre et les graves violations des droits humains commises en Iran, et veiller à ce qu'elles puissent accéder rapidement et en toute sécurité à la procédure de demande d'asile et à ce qu'elles ne soient en aucun cas renvoyées de force dans leur pays. Donc tout ça, ça se passe en Iran. Ça fait écho aussi, malheureusement, avec ce qui se passe en Afghanistan.
Oui, tout à fait. C'est ce à quoi je pensais. Oui.
Par rapport à la journée internationale des droits des femmes, cette année, Amnesty avait choisi de défendre la cause des femmes afghanes. Et nous avions une affiche donc, qui comme si c'est un petit logo de géolocalisation, ici, en cet endroit, les femmes afghanes n'ont pas droit d'entrer. Et on était amené à aller porter ces affiches à l'entrée des médiathèques, à l'entrée des lycées, à l'entrée des lieux d'éducation, à l'entrée des piscines, des jardins publics, des gymnases, tous les lieux qui sont interdits aux femmes afghanes. Donc on y est allé. Allez, vendredi dernier, pour oui. Certains, peut-être vous nous avez aperçus. Donc il y avait Dominique, Isabelle, Edith, Didier et moi. Et on remercie les directeurs de lycée qui ont accepté qu'on puisse mettre cette affiche à l'entrée.
Qui ont joué les jeux, effectivement. Puis le directeur de la médiathèque aussi,
qui a accepté qu'on mette notre affiche à l'entrée de la médiathèque le jour du salon du livre de jeunesse. Et donc, en fait, vous êtes amené, il y a un petit QR code sur cette affiche, si vous la voyez, et vous pouvez scanner ce QR code et aller signer la pétition en faveur des femmes afghanes. Et puis, par la même occasion, signer aussi les autres pétitions qui sont en ligne sur le site d'Amnesty.
Et même si on ne scanne pas le QR code, on peut aller signer la pétition sur le site d'Amnesty.fr sans problème, effectivement. Ce qu'il faut rappeler aussi qu'en Afghanistan, parce qu'on ne parle plus beaucoup de l'Afghanistan avec toute l'actualité centrée sur l'Ukraine et Israël et la Palestine.
Bah c'est encore pire.
Mais en Afghanistan, effectivement, à l'heure actuelle, les femmes n'ont à nouveau plus le droit d'aller à l'école passé 12 ans. Voilà, ça c'est. Ouais, c'était une. Alors que les talibans, quand ils ont repris le pouvoir de force, militairement parlant, s'étaient engagés à mieux respecter les droits des femmes, on voit ce qu'il en est trois ans après, hein, c'est clair.
Et on remercie aussi la directrice de
Léopold Sédar-Senghor,
qui s'est engagé du lycée. Présenter l'affiche aux assistants d'éducation du lycée pour qu'ils puissent le présenter aux élèves. Et je trouvais que c'était très sympa qu'elle accepte de relayer comme ça notre information pour que les jeunes prennent conscience de ce qui se passe dans d'autres pays.
Tout à fait. Et on a eu quelques remarques quand même de jeunes ou de personnel d'établissement qui nous ont vu mettre l'affiche et qui n'étaient pas très au courant qu'en Afghanistan, effectivement, les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, n'ont pas le droit d'aller dans les lieux culturels, n'ont pas le droit d'aller dans des lieux publics, enfin, etc., etc. Ça rappelle ce que tu disais sur les femmes iraniennes. Quand on commence la répression sur les femmes dans les pays autoritaires, on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça finit, hein, c'est clair. Et je serais toujours sidéré par cette haine qu'anime ces hommes-là vis-à-vis des femmes. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui les motive en tant qu'hommes pour faire ce genre de choses, au-delà des principes religieux. Enfin bon, les principes religieux qui vont jusque-là, ça pose question quand même. Mais même en tant qu'homme, effectivement, j'ai l'habitude de dire, et je le redirai encore une fois, moi, ce genre de comportement vis-à-vis des femmes, que ce soit en Iran ou en Afghanistan, des autorités, moi, au niveau de ma vie d'homme, ça me salit moi-même. Donc voilà. On va continuer à parler des droits des femmes, mais c'est Edith qui va vous en parler et va vous raconter effectivement quelque chose qui s'est passé au Tibet. Donc on l'écoute tout de suite.
Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un témoignage historique. C'est un article qui est paru dans la Dépêche, Histoire, par Bernard Debord. Donc ça se passe au Tibet. Peut-être un rappel, quelques dates clés. En 1951, c'est l'invasion du Tibet par l'armée chinoise. 1958, le Dalai Lama, chef spirituel du Tibet, fuit en Inde, où il est resté depuis cette date. Les Tibétains s'opposent de façon pacifique à l'occupation chinoise. Donc il y a des dates importantes. Un soulèvement à Lhasa qui a été durement réprimé en mars 1989. En mars 1990, une manifestation pacifique qui a amené l'arrestation de 14 nonnes. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Les nonnes chantantes du Tibet. Lhasa, capitale du Tibet sous l'occupation chinoise, un soir de 1993. Des voix s'élèvent du quartier de femmes de la prison de Drapchi. La nuit tombe et la garde desserre son étreinte. Strictement interdite de parole le jour, les 14 nonnes bouddhistes qui occupent le secteur des prisonnières politiques peuvent entonner ces chants, indispensables à leur survie. Ce soir-là, l'odeur est âcre dans la cellule qu'elles partagent. Comme souvent, elles sont assignées depuis le matin au ramassage des excréments dans les écoles et les camps militaires. Et comme souvent aussi, elles sont éclaboussées lors du vidage des tinettes, contraintes à réduire à main nue les matières les plus dures destinées à l'épandage des champs. Et parce qu'elles auraient terminé trop tard, elles n'ont pas été autorisées à laver leurs vêtements et leurs cheveux. On les condamne à la puanteur. Ce traitement inhumain, les coups et les tortures, les humiliations, la nourriture immonde, le lavage de cerveau, il en est question dans certains de leurs chants. Dans d'autres, elles affirment leur foi et leur conviction de résistante, celle qui leur a valu un jour de 1990 d'être arrêtée et condamnée de 3 à 5 ans de prison pour avoir crié « Vive le Tibet libre !» et « Longue vie au Dalai Lama !» dans une manifestation pacifique. Les textes entonnés racontent également la beauté et les merveilles de leur Tibet privé de sa liberté depuis l'occupation chinoise. Ces chants, qui d'ordinaire n'avaient pour fonction que de soutenir leur morale, vont un jour prendre un tout autre sens. L'une des nonnes, ayant pu se procurer une radiocassette auprès des prisonnières de droit commun, elle projette d'enregistrer et de faire sortir, à destination de leur famille, le détail de leur souffrance, mais également leur détermination. Elle ajoute aussi le nom de et leur peine, ainsi que l'identité des gardiennes les plus cruelles. 5 cassettes sont déjà sorties de Drapchi lorsqu'une sixième est saisie par les gardiennes. Dès lors, ça sera l'enfer. Car leurs chants, au-delà de leurs proches, sont parvenus à l'étranger. Les nonnes chantantes de Drapchi sont désormais des symboles de la résistance à l'oppression chinoise. Elles vont le payer de 8 années supplémentaires d'incarcération. Une sanction terrible qui coûtera la vie à l'une d'elles. D'autant que la surveillance s'est aggravée avec la présence permanente de caméras. De grève de la faim en refus de se lever ou de travailler, jamais elles ne plieront. Malgré l'interdit, elles ne cesseront de chanter et de prier. Les 13 survivantes ont été relâchées entre 1999 et 2004, en général pour raisons médicales. 6 d'entre elles ont réussi à fuir le Tibet, parcourant à pied, souvent de nuit, pour déjouer les patrouilles, les routes enneigées de l'Himalaya, celles que le Dalaï Lama avait empruntées quelques décennies auparavant, en mars 59. Il y a un témoignage donc d'une nonne, Jialtes Drokna. Il est clair que j'allais mourir ou passer de longues années en prison. J'ai choisi en connaissance de cause. Voilà un beau témoignage de résistance.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Edith qu'on vient d'entendre, effectivement, qui nous a envoyé ce petit enregistrement. Et on va enchaîner tout de suite, justement, sur un peu de musique et on se retrouve juste après.
Zibadon, kawakaya, nam kanja, tatam.
retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'écouter, par rapport à ce que nous a dit Edith sur le Tibet, une chanson tibétaine, assez occidentalisée.
Hello.
Assez occidentalisée, il est vrai, mais bon, voilà, sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et donc, cette chanson est chantée par quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Deki Tsering, et la chanson, effectivement, s'appelle Hello. Et maintenant, on va parler d'Arabie Saoudite, mais c'est Dominique qui va vous en parler.
Oui, donc je vais vous parler du projet de centrale hydroélectrique en Arabie Saoudite. EDF a signé un contrat avec l'Arabie Saoudite pour concevoir une centrale hydroélectrique sur le site de Neom, une mégalopole en construction dans le désert saoudien. Des salariés d'EDF dénoncent la participation de leur entreprise à un projet qualifié d'écocide. Tous les prénoms que vous entendrez sont des prénoms d'emprunt. Au sein d'EDF, parmi les initiés, on l'appelle le projet Nestor. Il s'agit de concevoir et de construire, au beau milieu du désert saoudien, loin du front de mer et de toute source d'eau naturelle, une centrale hydroélectrique. Un véritable défi technique. Mais si l'enthousiasme les dirigeants de l'entreprise publique, ce projet, que révèle la cellule Investigation de Radio France, heurte la conscience environnementale de nombreux salariés. Ils sont abasourdis par la démesure de Neom, la mégalopole saoudienne en construction, au cœur de laquelle cette centrale d'EDF sera implantée. Ambitieux, futuriste, démesuré, dystopique, les qualificatifs ne manquent pas depuis le lancement du projet Neom par Mohamed Ben Salman, MBS, en octobre 2017. Le prince héritier d'Arabie Saoudite annonce alors au monde entier la création ex nihilo d'une mégalopole de 26 000 km², soit quasiment la superficie de la Belgique. Elle sortira de terre dans la province désertique de Tabuk, au nord-ouest du pays. C'est le programme phare du plan Vision 2030 qui vise à rendre le royaume moins dépendant au pétrole. Rien que son nom annonce la couleur. Neom est la contraction de Néo, nouveau en grec, et de M, la première lettre de Moustakabal, futur en arabe. Nouveau futur donc. Les 500 milliards de dollars nécessaires à sa construction seront apportés par un fonds public saoudien et des investisseurs locaux et étrangers. Pour les attirer, MBS déploie de gros moyens. À grand renfort de clips produits façon Hollywood, le prince annonce pêle-mêle que Neom regroupera une station de ski, Trojena, où auront lieu les Jeux asiatiques d'hiver 2029, une île de luxe pour les touristes sur la mer Rouge, Sindala, et un complexe industriel avec un port flottant, Hexagone, et surtout The Line, la futuriste ville immeuble. Elle devrait culminer à 500 mètres de haut, soit une fois et demie la taille de la Tour Eiffel, et s'étendrait sur 200 mètres de large et 170 km de long. D'après les architectes de renom qui œuvrent à sa conception, The Line sera une ville verticale avec des modules empilés, appartements, commerces, équipements sportifs. Le million d'habitants qui est attendu, 9 millions à terme, se déplacerait davantage de haut en bas qu'horizontalement, grâce notamment à des taxis volants, comme dans le film de Luc Besson, Le cinquième élément. Il n'y aura pas de rue, pas de voiture et aucune émission carbone, promettent les Saoudiens. Et c'est là qu'intervient EDF. The Line est censé fonctionner uniquement avec des énergies renouvelables, le vent et le soleil, raconte un bon connaisseur du projet au sein d'EDF. Or, l'éolien et le photovoltaïque sont des énergies intermittentes. Pour qu'il y ait d'électricité, même quand il fait nuit ou qu'il n'y a pas de vent, ils ont besoin de notre STEP. Derrière cet acronyme se cache un type particulier de centrale hydroélectrique, une station de transfert d'électricité par pompage-turbinage. EDF en exploite 6 en France et plusieurs autres à l'étranger. Les STEP permettent de produire de l'électricité, turbinage, et d'en stocker, pompage, grâce à 2 réservoirs d'eau, l'un situé en hauteur, l'autre en aval, et ainsi d'ajuster l'offre et la demande d'électricité sans coupure de courant. Cette technologie est 100% verte et c'est en cela qu'elle intéresse les Saoudiens. EDF, via sa filiale EDF Renouvelable, exploite déjà un parc solaire au sud de Jeddah et un parc éolien dans la région d'Al Jouf. Ces deux installations n'ont souffert d'aucune contestation, car elles alimentent en électricité les foyers saoudiens. Ce qui ne semble pas être l'objectif principal de la future STEP. Le problème, ce n'est pas de construire une centrale hydroélectrique en Arabie Saoudite, c'est de la construire à Neom, explique Jean-Yves Ségura, représentant du personnel et délégué FO à EDF. Bien évidemment, l'Arabie Saoudite, comme tous les pays, doit se décarboner. Et les centrales hydroélectriques, notamment les centrales de pompage-turbinage, peuvent participer à cette décarbonation, estime le délégué syndical. Mais Neom nous gêne parce que c'est un projet pharaonique qui ne bénéficiera pas à la population saoudienne. Ce sera pour faire du tourisme de luxe au milieu du désert. Et ça, ce n'est pas du tout durable. Quantité de voyants sont au rouge écarlate, renchérit Edouard, ingénieur chez EDF Hydro. Il voit dans Neom un projet délétère dans lequel on joue au golf et on organise des jeux d'hiver au milieu du désert. Le tout éclairé par une lune artificielle et où on se déplace en taxi volant, dénonce-t-il, faisant référence aux annonces les plus osées et sûrement irréalistes de MBS. Tout cela, ce n'est pas EDF, ce n'est pas notre EDF. C'est un paradoxe de demander la sobriété en France et de s'impliquer dans un projet à ce point délirant à l'étranger. D'après cet ingénieur expérimenté, toutes les voies de recours disponibles en interne ont été activées sans succès. Interrogé, le représentant syndical confirme avoir déclenché en mai 2022 une alerte éthique auprès de la direction, classée sans suite. Malgré ce malaise, EDF semble déterminé à s'engager dans Neom. Notre direction nous a fait comprendre que si on voulait avancer professionnellement et financièrement dans l'entreprise, il valait mieux qu'on accepte de travailler sur Neom, raconte Antonio, ingénieur chez EDF Hydro. On nous a un peu mis le couteau sous la gorge. On a l'impression de retrouver à EDF Hydro une forme de management à la France Télécom d'il y a 20 ans, poursuit la maire. Son collègue Edouard confirme. La direction est ferme sur Neom. On nous dit que si cela nous pose trop de problèmes de travailler sur ce projet, il faut quitter l'entreprise. Résultat, on évite d'aborder le sujet à la pause déjeuner et de dire ce que l'on pense vraiment. Contactée, la direction d'EDF dément avoir exercé une quelconque pression sur ses agents. EDF a laissé le choix aux salariés de ne pas contribuer au projet s'ils le souhaitaient. Le groupe respecte l'opinion de tous les salariés et offre de nombreuses opportunités professionnelles en interne pour permettre un épanouissement personnel dans d'autres projets et services. Selon les informations de la cellule investigation de Radio France, confirmée par la direction d'EDF, la construction de la centrale Nestor est bel et bien entérinée. En partenariat avec les entreprises Tractebel, filiale d'Engie, Ertelia, conseil en ingénierie, EDF a fait une offre pour concevoir l'installation et lancer les appels d'offres pour les travaux. Le contrat a été signé par les Saoudiens début 2024, mis en service prévu en 2029. Car de l'eau dans le désert, il faut en trouver et à défaut en acheminer. Situé dans une région aride, Nestor aura besoin d'une quantité importante d'eau pendant les phases de construction, de mise en service et d'exploitation, peut-on lire dans l'offre soumise à Neom Compagnie par EDF. L'eau sera prélevée dans le grand pipeline d'adduction d'eau dessalée situé à proximité. Et en amont, une usine de dessalement sera construite près de la mer Rouge. Eau prélevée dans la mer, dessalée pour éviter la corrosion des installations, puis transporté par pipeline dans le désert pour alimenter la centrale. C'est le schéma retenu par EDF. Cela pose des questions éthiques, admet un syndicaliste, pourtant favorable à la construction. On capte de l'eau pour un projet qui ne bénéficiera pas à la population générale. Selon nos informations, dans un premier temps, EDF ne fera que concevoir cette centrale et supervisera les travaux, mais elle devrait par la suite l'exploiter et se rémunérer en vendant l'électricité produite. Si on exploite la centrale, ça rapporte plusieurs milliards. Ce sera une machine à cash.
C'est peut-être pour ça aussi que EDF veut faire partie de la combine.
Cela fait déjà plusieurs années que l'entreprise publique souhaite s'investir dans Neom. Elle a d'abord réalisé en 2021 un inventaire des lieux où pourrait être construite la centrale Nestor. Puis elle a effectué des études de pré-faisabilité et de faisabilité en 2022-2023. C'est le cheminement normal des grands projets d'infrastructure à l'international, mais un document dérange au sein de l'entreprise. Il a été rédigé le 16 octobre 2018 par le Centre d'ingénierie hydraulique, intitulé « Principe conceptuel d'une steppe marine en Arabie saoudite ». Il est destiné à la direction internationale du groupe. C'est une prestation intellectuelle pour se vendre auprès du royaume saoudien, montrer ce qu'on sait faire. Le problème, c'est que deux semaines plus tôt, le 2 octobre 2018, le journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi était assassiné au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Son corps, qui n'a jamais été retrouvé, aurait été démembré. Le renseignement américain considère que le prince héritier en personne a commandité cet assassinat. À cette époque, l'Arabie saoudite devient persona non grata au sein de la communauté internationale. MBS Lucide aurait prédit, selon un aveu rapporté dans le Financial Times, que personne n'investira dans Neom pendant des années. EDF ne semble pourtant pas avoir pris ses distances avec le royaume, puisque la note technique d'octobre 2018 est complétée par une autre datée du 11 février 2019, dans laquelle l'entreprise propose d'étudier les endroits susceptibles d'accueillir une centrale hydroélectrique. Au-delà du cas du journaliste assassiné, on s'émeut aussi désormais au sein d'EDF du sort des populations locales de la province de Tabuk. Dans la tribu des Oweta, environ 20 000 membres, nombreux sont ceux qui refusent de vendre leurs terres à l'État saoudien pour laisser la place à Neom. En avril 2020, Abdul Rahim Al-Wati a été abattu par les forces de sécurité alors qu'il s'exposait à son expulsion. Depuis, de nombreux membres de la tribu ont été arrêtés et 5 d'entre eux ont été condamnés à mort officiellement pour atteinte à la sûreté de l'État. Des Saoudiens vont se faire couper la tête pour avoir refusé de quitter leur maison. C'est grave, s'alarme Lina Al-Atloul, militante saoudienne des droits de l'homme, exilée à Bruxelles, où nous l'avons rencontrée. Avec l'ONG Alxt, elle documente les atteintes aux droits d'homme provoquées par la construction de Neom. Ce projet, souhaité par le peuple saoudien, n'est pas sa priorité. Ce n'est pas sa priorité. Nos villes existantes n'ont pas de transport en commun. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, plutôt que sur ce projet vaniteux qui se fait sur le sang du peuple saoudien. Lina Al-Atloul insiste sur le climat de terreur qui entourerait l'émergence de Neom. L'Arabie saoudite s'est transformée en état policier. Tous les procès ont lieu à huis clos et on ne sait pas ce qui s'y passe, dénonce la jeune femme, dont la sœur, Loujouane, a passé plusieurs années en prison pour s'être opposée au pouvoir. Les gens ont tellement peur, ils sont tellement surveillés que simplement faire passer une information sur Neom peut leur porter préjudice. Ils peuvent être incriminés pour cela. Lina Al-Atloul ne demande pas pour autant aux entreprises françaises comme EDF de boycotter Neom. Simplement d'oser aborder publiquement auprès des autorités saoudiennes les atteintes aux droits de l'homme. Dans l'offre qu'elle a soumise à Neom Company, EDF a pris soin d'insérer sa charte éthique. Le groupe s'engage à promouvoir et respecter la protection des droits de l'homme et ne pas être complice des violations des droits de l'homme. Pas sûr qu'avec Neom, on couche toutes les cases, ironise un agent d'EDF Hydro. D'autant que l'impact environnemental de ce méga-projet pose aussi question. Certes, une fois la construite, la mégalopole doit être zéro émission nette. Mais sa construction, tout de béton, d'acier et de verre, surtout concernant The Line, sera extrêmement énergivore. Bâtir une nouvelle ville pour 9 millions d'habitants aura forcément une empreinte carbone très élevée. Les matériaux utilisés comme l'acier et le béton sont très gourmands en carbone. Selon mes estimations, la construction de Neom dégagera 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. C'est l'équivalent de 4 fois les émissions annuelles du Royaume-Uni. Ça, c'est un professeur, directeur de recherche à Sydney. Et un autre professeur dit « En Arabie saoudite, on a un gros problème de transport en commun et d'infrastructure, notamment pour la gestion des eaux usées. Il y a aussi un problème d'accessibilité au logement. Neom va certes créer des logements, mais ce seront des logements chers. » Alors, pourquoi EDF se lance-t-elle dans un projet aussi contesté ? Ben, ne pas le faire serait une erreur, affirme Bertrand Besancenot, ambassadeur de France en Arabie Saoudite de 2007 à 2016. Voilà, bon, j'arrête là. Juste pour vous dire que, rajouter juste que Lina Al-Altloul, dont je vous parlais tout à l'heure, est l'autrice de Loujain, Rêve des tournesols, livre publié aux éditions des 400 coups.
Merci, voilà. Merci Dominique pour ce long exposé d'un sujet intéressant et qui regroupe à la fois les aberrations, enfin c'est ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire sous prétexte de construire une ville bas carbone, on va polluer un maximum, on va piquer de l'eau dans un pays qui est désertique pour faire une ville, pour faire des sports d'hiver en plein désert, enfin des choses complètement aberrantes et qui vont servir surtout à faire venir des gens qui sont richissimes et qui participent largement au dérèglement climatique. Et tout ça en s'asseyant sur les droits humains de la population civile en Arabie Saoudite. Donc effectivement, je ne sais pas si EDF coche toutes les cases en termes de déontologie, sans doute pas, et sans doute que c'est l'appât du gain qui l'attire, mais de toute façon, le projet en lui-même est complètement débile. Voilà. Et très dangereux sur le plan. Et il y a un rapport qui vient de paraître, mais je n'ai pas eu le temps de trop le lire. On en parlera une prochaine fois, justement sur la situation des droits humains en Arabie Saoudite, qui vient de paraître sur le site d'Amnesty. Si vous avez envie de le lire, effectivement, n'hésitez pas. Et on y reviendra dans une prochaine émission. Mais tout de suite, parce que la pendule tourne toujours trop vite.
Tic-tac, tic-tac, c'est tic-tac. Ça.
C'est Claire Lisse qui doit vous parler de résistants en Russie.
Alors, j'ai plusieurs portraits, mais je ne vais peut-être pas avoir le temps de vous décrire un petit peu ces portraits, de personnes qui sont emprisonnées actuellement en Russie parce qu'elles ont osé s'opposer à M. Poutine et s'opposer notamment à la guerre en Ukraine. Donc ces dernières semaines, l'implacable répression du Kremlin a de nouveau montré son visage. Le 16 février 2024, Alexei Navalny, premier opposant de Vladimir Poutine, mourait en détention dans la colonie pénitentiaire la plus reculée de Russie. Des manifestants et des manifestantes étaient arrêtés à la suite de ses funérailles. Le 28 février, le dissident russe Oleg Orlov, coprésident de l'ONG Mémorial, était envoyé en prison. En plus des opposants politiques et dissidents historiques, le Kremlin traque des artistes, des militants, des journalistes et de simples citoyens qui s'opposent à la guerre. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, la répression s'est intensifiée. Les lois réduisent au silence les voix anti-guerre. Nous racontons les histoires des artistes, journalistes, militants ou simples citoyens de la Russie d'aujourd'hui qui ont osé critiquer la guerre et contrecarrer le discours officiel du Kremlin. Étouffés, emprisonnés et même empoisonnés pour certains, ils restent debout. Dignes, déterminés. Nous racontons les histoires de Dimitri, de Maria, d'Alexei, d'Alexandra, de Vladimir, emprisonnés, mais dont le courage est tel que le pouvoir russe ne parviendra pas à les réduire au silence. Alors, je vais vous parler de Dimitri, qui est un commerçant, qui a été emprisonné simplement parce qu'il a écrit sur une pancarte « Désolé pour l'Ukraine ». Dimitri Sukirkin tient un commerce dans un petit village de la région de Leningrad, au nord-ouest de la Russie. Âgé de 48 ans, il est le père de 5 enfants. C'est un militant actif, il a souvent exprimé ses opinions anti-guerre depuis la première invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014. Lorsque l'armée russe envahit l'Ukraine en février 2022, Dimitri ne reste pas silencieux. En août 2022, il accroche une banderole devant son magasin, avec le message suivant « Société russe, réveille-toi. Arrêtez l'opération militaire spéciale insensée, mensongère, infâme, fratricide et honteuse. » Il publie une photo sur ses réseaux sociaux. Un mois plus tard, la police ouvre une procédure pénale contre lui, l'accusant d'avoir discrédité de manière répétée les forces armées russes et perquisitionne ses locaux. Malgré tout, il réalise une nouvelle action et inscrit des messages anti-guerre et les noms des villes ukrainiennes attaquées par l'armée russe sur la devanture de son magasin. Le 24 février 2023, un jour pour un an jour pour jour après l'invasion russe de l'Ukraine, Dimitri publie une photo de lui, agenouillé devant son magasin avec une pancarte à la main, « Désolé pour l'Ukraine ». Il est arrêté. Des inconnus débarquent en pleine nuit et peignent la devanture de son magasin pour effacer les messages. La sentence tombe en août. Il est condamné à 18 mois de prison. La raison invoquée, avoir jeté le discrédit sur les forces armées russes en vertu de l'article 283 du Code pénal, l'une des lois adoptées à la hâte une semaine seulement après l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà. Je vous en lirai un autre tout à l'heure. On va peut-être faire une petite pause musicale.
On va faire la pause musicale, mais ça montre bien effectivement ces témoignages qu'en aucun cas, quand on entend tous les appels à la guerre de tous côtés à l'heure actuelle, enfin, etc.
Il y a des petits va-t-en-guerre en ce moment.
Oui, c'est clair. En aucun cas, la population civile russe n'est notre ennemi. Et il faut arrêter de dire absolument n'importe quoi. L'ennemi, ce n'est pas la population civile russe. Et on tire notre chapeau à tous les gens qui continuent à se battre contre l'intoxication du régime de M. Vladimir Poutine. On passe effectivement à la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après. retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'entendre Anne Passeo. La chanson s'appelle From Shadow to Light. Et c'est aussi une chanson, alors c'est en anglais, mais c'est une chanson qui rend aussi hommage à la lutte des femmes pour leurs droits. Donc voilà, c'est une émission qu'on dédie à toutes ces femmes en Arabie, en Afghanistan et bien ailleurs qui luttent pour leurs droits et qu'on salue encore une fois. Voilà. Je crois que Clarisse voulait revenir sur la population civile qui lutte contre la guerre en Ukraine.
Oui, alors des artistes et des journalistes et des personnes qui en Russie s'opposent à la guerre en Ukraine. Et là, je vais vous parler de Maria, la journaliste qui a publié des informations sur un bombardement à Mariupol. Donc Maria Ponomarenko est journaliste. Elle travaillait pour le média en ligne Rush News. Le 17 mars 2022, elle publie sur son compte Telegram un post sur le bombardement du théâtre de Mariupol. Le post en question, c'est une vidéo du théâtre réalisée avant l'attaque avec un commentaire dénonçant la mort de civils suite au bombardement russe. C'était un crime de guerre. Hein. Pour cette publication, sur les réseaux sociaux, ce sera la prison ferme. Le tribunal de Barnaul, dans la région de l'Altaï en Sibérie, condamne Maria Ponomarenko à 6 ans de prison. Elle est reconnue coupable d'avoir diffusé de fausses informations sur les forces armées russes. Même logique répressive, un chef d'inculpation rendu possible par les lois promulguées après l'invasion russe de l'Ukraine. Aujourd'hui, en Russie, 43 journalistes font l'objet de poursuites pénales pour s'être opposés à la guerre. Agissez pour la libération de Maria et pour l'abrogation de ses lois. En plus de sa peine d'emprisonnement, Maria a l'interdiction d'exercer une activité journalistique pendant 5 ans à compter de sa libération. L'état psychologique de la journaliste s'est dégradé en détention car elle y a subi de mauvais traitements. Je vais vous parler aussi très brièvement d'Alexei, le député qui a parlé des enfants victimes de la guerre. Alexei Gorinov est député municipal de l'opposition à Moscou. Militant pro-démocratie, il a notamment contribué à protéger les droits des manifestants détenus dans les commissariats de police. Lors d'une réunion du conseil municipal le 15 mars 2022, Alexei prend la parole en qualifiant l'invasion de l'Ukraine par la Russie d'agression et de guerre. Il affirme que des enfants meurent chaque jour en Ukraine. Pour ses propos, il est arrêté pour diffusion de fausses informations. Il est condamné à 7 ans de prison. Agissez pour la libération d'Alexei et pour l'abrogation de ses lois. En prison, l'état de santé d'Alexei se détériore. Il souffre de troubles respiratoires et est privé de ses médicaments. 240 professionnels de la santé se sont mobilisés en exigeant des autorités russes qu'Alexei Gorinov puisse accéder à des soins de santé. Après ces alertes, on a ignoré où se trouvait Alexei pendant un certain temps jusqu'à ce que l'on retrouve sa trace dans un hôpital pénitentiaire. Alexei fait désormais l'objet d'une deuxième enquête l'accusant de justification du terrorisme. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Juste vous dire aussi que j'avais prévu de vous parler de ce qui se passe à Gaza, oui. De l'appel au cessez-le-feu et surtout aussi pour que l'aide humanitaire puisse arriver par voie terrestre pour sauver les 2,3 millions de personnes qui sont victimes d'un harcèlement et de bombardements journaliers, de civils qui sont condamnés quand même à la famine, à la malnutrition, à la maladie, parce que l'aide humanitaire n'arrive pas et que le largage aérien ne suffisent pas. Donc, je vous invite à aller sur le site et à signer notre pétition pour un cessez-le-feu immédiat et pour une reprise de l'aide humanitaire par voie terrestre, parce que c'est 10 fois plus, même beaucoup plus, que ce qu'ils arrivent à obtenir par largage par avion.
Oui, voilà. Tout à fait. Et ce qu'il faut quand même noter, il y a quand même eu un progrès, entre guillemets, c'est que l'appel au cessez-le-feu, effectivement, a fait l'objet d'une déclaration commune au niveau de l'ONU. Il y a un seul pays qui s'est abstenu, je crois que je ne sais plus lequel, c'est par rapport à ce cessez-le-feu. Mais donc, effectivement, alors qu'il y a encore quelques semaines, il y avait tout un groupe de pays qui s'y opposaient. Donc, la demande de cessez-le-feu Israël-Gaza a progressé au niveau de l'ONU, il faut maintenant qu'elle passe dans les fêtes. Donc n'hésitez pas à nous soutenir en venant signer la pétition. Oui, il y a Clarisse qui me fait signe qui me fait me montre. Il y a Manu qui rentre dans la, le.
Là, Manu, on ne va pas être en avance aujourd'hui. On est désolé. On va être dans
mais
un
si.
Jeu. Ah, ça sera à 20h pile, mon petit gant.
Et Manu c'est celui qui anime l'émission. C'est très bon. Qui anime l'émission du laboratoire juste après nous.
Donc, et juste vous redire aussi. Avant que je laisse la fin à Didier, qu'une petite pensée quand même sur Évreux aussi, aux gens qui sont logés à la Mala, la mise à l'abri pour l'hiver. La Mala va fermer, puisque la mise à l'abri pour l'hiver, c'est du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Voilà, donc ça va fermer. Et les gens qui étaient accueillis à la Mala, bon, quelques-uns ont eu des solutions d'hébergement vers le Formule 1, Formule 1 d'Évreux, Formule 1 aussi à Val-de-Reuil, à Saint-Marcel, ou alors, vous savez, à Val-de-Reuil, là, éloigné de tout, à 3 km à pied pour pouvoir s'alimenter, pour des gens, des fois, qui n'ont pas de voiture. Et l'hébergement d'urgence est saturé dans de nombreux endroits en France, et notamment à Évreux. Donc, c'est vrai que quand les gens appellent le 115, eh ben, malheureusement, tous les hôtels sont pleins, les hébergements d'urgence sont pleins. Et ben, si vous pouvez faire des hébergements solidaires, vous pouvez, par le biais de la radio, vous manifester pour aider des personnes qui ont droit. C'est un droit inconditionnel, l'hébergement d'urgence, qui ça a été rappelé par le Conseil d'État le 20 décembre 2022. Et malheureusement, eh ben, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait fournir pour que des êtres humains puissent avoir un toit au-dessus de leur tête, et notamment des enfants.
Merci Clarisse pour ce rappel important, effectivement, vu les circonstances et vu l'actualité. Et donc, information locale pour terminer l'émission. C'est surtout des informations de radio qu'on a à vous donner. Donc, notre prochaine émission Amnistie, c'est le mardi 16 avril, 19h à 20h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Encore une fois, on vous rappelle que toutes nos émissions sont mises en podcast aussi sur le site de la radio, principeactif.net, dans la rubrique Amnistie. Vous pouvez en réécouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on aura deux jours après, donc le mardi 16, donc ce sera le jeudi 18, une émission Fréquence Droits Humains consacrée au handicap invisible et qui sera diffusée en direct depuis l'association La Ronce. Donc voilà, ça c'est nos informations et nos actualités radiophoniques du moment. Voilà, on avait préparé d'autres choses, mais prévu dans cette émission de ce soir, on y reviendra pour les fois prochaines. Mais on vous rappelle deux choses importantes. N'hésitez pas à nous soutenir et à signer les pétitions et à vous informer sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, Amnesty avec un Y.fr. Et également, si vous voulez nous contacter au niveau du groupe d'Évreux, notre adresse mail, c'est evreux@amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Voilà, on va laisser la place au laboratoire, donc on est à peu près dans les temps quand même. Et donc, on vous dit bonne fin de soirée et à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.